Avec Trace et Ensemble, nous allons entendre une méditation d'Anne Pommette de l'épisode de la femme adultère. À bien des égards, il évoque l'actualité française toute récente et nos rapports avec la loi.
Évangile selon Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus gagna le mont des Oliviers. Dès le point du jour, il revint au temple et, comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamnée ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. »
Posons le décor pour mieux comprendre ce récit. Jésus est dans une des cours du temple. Il y a là un gros tas de pierres destinées à lapider les coupables d'infractions à la loi. La situation est tendue, l'atmosphère est lourde. La femme qui a été traînée jusque-là risque d'être lapidée. Elle est enfermée dans une sorte de cercle au milieu, là, jetée là comme un objet. Jésus aussi se sait menacé de lapidation. À la fin du même chapitre, on pourra lire « Alors ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui, mais Jésus se déroba et sortit du temple. » Donc Jésus se sait parfaitement menacé. Ses détracteurs, les scribes et les pharisiens, autrement dit les professionnels de la religion, attendent un fait évident pour le condamner. Eux, ils considèrent déjà que Jésus est un hérétique, un faux prophète, et surtout qu'il menace leurs intérêts, parce que ce sont eux qui ont autorité sur les gens. Et ce sont eux qui ont la mainmise sur le temple en quelque sorte et sur les revenus qui vont avec le temple. Donc la femme est là, sans doute par terre, comme un objet qu'on regarde avec mépris. Et on parle d'elle à la troisième personne. Les scribes et les pharisiens ne s'adressent à Jésus en fait. Elle n'est qu'un prétexte. En fait, la loi, d'après le livre de Deutéronome, au chapitre 22, versets 22-24, dit que les deux partenaires qui ont fauté doivent être lapidés tous les deux, l'homme et la femme. Jésus ne revient pas là-dessus, il ne discute pas là-dessus. Il ne discute pas sur la formulation de la loi. Et Jésus sait très bien que dans cette affaire, c'est lui qui est visé. Il est piégé. Il faut qu'il se positionne. Est-ce que tu es pour ou contre la loi ? Donc Jésus n'entre pas dans la polémique. Il se tait. Déjà, vous savez que dans un débat, quand quelqu'un se tait, ça jette un froid. Ça permet peut-être de prendre un peu de distance aussi. Déjà, le silence de Jésus en dit long. Il garde le silence et il trace des traits sur le sol. Les pères de l'Église, les commentateurs de tous les siècles qui ont suivi, se sont interrogés sur ce que Jésus pouvait avoir écrit sur le sol. Alors il y a une hypothèse qui a été retenue parmi d'autres et qui semble vraisemblable. Ce serait la référence à Jérémie 17, verset 3. « Tous ceux qui se sont détournés de moi, que leur nom soit inscrit sur le sol. » Ça semble tout à fait vraisemblable, parce que Jésus se sent menacé et peut-être s'amuse-t-il à compter le nombre d'ennemis qu'il a autour de lui. Ou peut-être, tout simplement, leur a-t-il laissé le temps de se poser une question. Mais en fait, ce sont eux qui prennent la parole et qui le harcèlent de questions. Alors Jésus répond en déplaçant complètement le sujet. La question, ce n'est pas la femme, c'est chacun d'eux. Ils se veulent les champions de la loi, et bien soit qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes. Que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lui jeter la pierre. La polémique s'éteint d'elle-même et laisse place au silence. Car la culpabilité, elle est partagée par tous. Et les grands connaisseurs de l'Écriture le savent bien. Tout le monde est pécheur. Tout le monde est solidaire dans le péché. Tout le monde a quelque chose à se reprocher devant Dieu. Les plus anciens sont les plus conscients de la chose, c'est-à-dire de leur état de pécheur. La honte a changé de camp. Jésus leur a cloué le bec. En tout cas, voilà Jésus en tête-à-tête avec la femme. Il est le premier à lui adresser la parole. Il ne demande aucune explication. Il ne lui impose aucune pénitence. Il ne la questionne pas sur les faits. Il la regarde comme une personne. Il ne l'enferme pas dans ce qu'elle a fait. Il l'invite juste à faire le constat de sa libération. Elle n'a pas été condamnée. Donc, il lui fait dire en quelque sorte, « Personne ne m'a condamnée. Elle peut prendre la parole pour dire, « Je suis libre, tu m'as libérée. » Jésus ne l'innocente pas, simplement, il ne l'enferme pas dans ce qu'elle a fait. Il lui ouvre un avenir. C'est ainsi que Dieu pardonne. C'est ainsi qu'il nous pardonne. Quand Jésus se redresse, le verbe est employé deux fois dans le texte, la femme à son tour va pouvoir se relever. Le scénario est magnifique. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. On comprend que ce texte ait été choisi pour les candidats au baptême, pour les catéchumènes, parmi les premières communautés chrétiennes. Car pour les nouveaux baptisés, les adultes, hein, c'était que des adultes au départ, c'est un horizon nouveau qui s'ouvre à eux. Quand Jésus pardonne, il dit que Dieu fait toutes choses nouvelles. Il dit qu'il efface le passé. C'était vrai pour les premiers chrétiens, cela est vrai pour nous aujourd'hui. De ce texte, je retiens trois choses. Jésus distingue le péché de la personne qui le commet, alors que notre tendance à nous, c'est d'enfermer quelqu'un dans une étiquette. Il a volé, c'est un voleur, on essentialise. Eh bien Jésus, non, Jésus ne fait pas ça. Donc pour nous, il est bon de ne pas réduire autrui à un acte commis à un instant donné. Il ou elle n'est pas que cela. C'est pourquoi il faut éviter de poser des étiquettes qui collent à la peau. Deuxièmement, Jésus délivre du passé. Dans l'Ancien Testament, le Dieu de l'Alliance invite les exilés, ceux qui ont été perdants dans les guerres, à relever la tête, à sortir du découragement, à sortir de l'échec. Donc la question qui nous est posée à nous, si Jésus vient pour nous délivrer du passé qui enferme, qu'est-ce que cela peut signifier comme valeur libératrice pour nous aujourd'hui? Eh bien moi je dirais deux choses. Je dirais que Jésus ne nous délivre pas seulement des mauvais souvenirs du passé, des choses cruelles qu'on a pu vivre, des choses qui nous ont fait du mal. Non seulement Dieu nous délivre de cela, il nous délivre donc de l'amertume, de la tentation de vengeance, il nous délivre aussi de la culpabilité si c'est nous qui avons été l'auteur d'une offense envers autrui. Il nous délivre de tout cela. Mais non seulement le Seigneur nous délivre du passé, des souvenirs du passé, mais je vais même jusqu'à dire qu'il nous délivre des trop beaux souvenirs qu'on a tendance à idéaliser et qui peuvent, mine de rien, nous empêcher d'espérer et de regarder vers l'avant. Je remercie les frères et sœurs dans la foi qui nous aident, qui nous écoutent déjà, qui sont capables d'écoute sur ce qu'on a pu vivre de difficile. Parce que ce sont les frères et les sœurs dans la foi qui peuvent nous aider à pardonner et à demander pardon. Je ne doute pas que l'Esprit Saint parle à travers eux et à travers elles. Troisième chose, Jésus interprète la loi. Il ne la détruit pas. Il sait que l'être humain a besoin de la loi comme d'un guide. Mais il en donne le sens profond. Le permis et le défendu sont nécessaires pour baliser nos routes humaines, comme indicateurs. Mais au-delà, il y a l'intelligence des situations, d'une part, le discernement, et il y a la miséricorde. L'esprit que nous invoquons nous offre la grâce du discernement et la force du pardon. La loi n'a pas à être idolâtrée. Respecter la loi, c'est une chose. Se servir de la loi comme d'un indicateur, c'est une chose. Ne pas l'idolâtrer. Quand on invoque comme valeur numéro un l'ordre et la sécurité, ça peut mener à l'exclusion et ça permet de laisser s'installer l'oppression. Attention. La loi que Jésus a instaurée, en fait, c'est la loi de la miséricorde, de la bienveillance, de l'amour réciproque et du pardon. Alors, pour terminer, en voyant que Jésus s'implique très fortement dans cette histoire de la femme en situation d'adultère, il s'implique au point de risquer lui-même d'être lapidé. Il est conscient que sa parole va lui coûter la vie. Jésus a brûlé sa vie pour que nous passions avec lui de la mort à la vie. Jésus a brûlé sa vie pour que nous ayons la vie. Cette affirmation nous stimule sur notre chemin vers Pâques.